En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, toute l'équipe de l'heure du crime autour de Perrine Suquet. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de ce magazine avec à la une histoire terrible. Une histoire qui n'a jamais été élucidée. Nous sommes le 21 juillet 1946, à l'heure du dîner. Un village du Berry, une petite ferme. Kléber Carteron, sa femme qu'on appelle dans le village l'Alphonsine, et puis aussi deux enfants de 10 et 12 ans sont retrouvés exécutés d'une balle de mitraillette en pleine tête. Un petit peu plus loin, dans la même pièce, le cadavre d'un chien. Ils ont tué jusqu'au chien. C'est ce que les gens vont se dire dans cette région qui a été évidemment traumatisée par cet événement à l'été 1946. Et nous avons pris connaissance de cette affaire jamais résolue, donc encore une fois, grâce à un auditeur de l'heure du crime qui habite tout près des lieux de ce drame oublié et qui nous a laissé un message sur rtl.fr pour nous demander de mettre cette mystérieuse affaire à la une de l'émission. Alors on va le remercier tout de suite, monsieur Dominique Berger, bonjour.
Oui, bonjour Jacques Pradel.
Et merci donc de nous avoir parlé de cette affaire bien oubliée, comme vous le signaliez dans votre message. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait la démarche de nous en parler sur RTL.fr ?
Ben, disons que c'est une histoire qu'on a très peu parlé depuis quelques années. Bon, c'est vrai que les faits se sont déroulés en 1946, on est en 2012.
Oui.
Je pense que peut-être énormément de personnes, ça a peut-être pas paru assez au niveau national et tout par rapport à certaines affaires qui est une affaire ressemblante dans la région même à quelques distances d'ici, c'est l'affaire Nice-Étienneau,
mais oui,
je pense que l'affaire de Beaumier c'est resté inexpliqué, comme le disait Jean-François Denis dans son livre que je salue d'ailleurs, et qu'on n'en parle plus comme ça, qu'on laisse, il n'y a pas eu de fin, quoi, je veux dire.
Voilà, exactement, oui. Ouais.
Sachant que quand même, dans l'histoire, quand on livre le bouquin de Jean-François, Jean-François, on doit penser la même chose, comme tous les lecteurs qui ont lu le livre, on pense que l'affaire a été étouffée pour des raisons, je ne sais pas, peut-être, soit politiques ou question d'après-guerre, mais bon, c'est...
Et alors vous, Dominique, vous, en fait, vous connaissez bien cette affaire, parce que d'abord, vous habitez tout près, hein, je crois, à 2,5 km de Beaumier, hein, l'endroit où le drame s'est déroulé. Mais vous étiez tout petit à l'époque, ou vous n'étiez même peut-être pas né?
Non, je n'étais pas né du tout. Oui, j'habite un village à 2 km de Beaumier qui s'appelle Ambro.
Mm-hmm.
Mais mon grand-père habitait à Beaumier, ma tante habitait à Beaumier. Puis
d'accord,
bon, j'ai beaucoup d'amis à Beaumier et tout.
Et tout le monde vous en a parlé, quoi, en fait.
Énormément. Ouais. Et même en plus, j'ai encore quelques amis qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui ont pratiquement la moitié de mon âge, ont 25-30 ans, et qui en ont entendu parler à droite à gauche comme ça, et qui sont très intéressés d'ailleurs. J'ai prêté mon bouquin et je ne l'ai pas retrouvé.
Alors, écoutez, en tout cas, merci encore. Vous nous disiez aussi dans votre message sur RTL.fr que vous étiez persuadé qu'il y avait des personnes encore en vie qui détenaient peut-être une part de la vérité. Et vous nous parliez de Jean-François Denis. Vous avez cité son nom à l'instant. Les auditeurs doivent se dire, mais qui est ce Jean-François Denis? Ben, il est mon invité, l'invité de l'heure du crime, puisque vous nous disiez, voilà, il y a un journaliste de la région qui a écrit un bouquin remarquable sur cette affaire. Il a fait, j'allais dire, on dit habituellement qu'un journaliste fait des contre-enquêtes. Non, là, c'est une enquête, carrément, parce que on va découvrir avec lui, dans un instant, que l'enquête est pleine de trous, pleine de zones d'ombre, pleine d'incompétences, pleine de... Voilà, une enquête un peu bâclée à l'époque. Et il a écrit un livre qui s'appelle « L'exécution » que nous nous sommes procurés. Et évidemment, on a téléphoné à Jean-François Denis. Bah, vous pouvez maintenant saluer Dominique. Bonjour Jean-François Denis.
Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour Jacques.
Bonjour Jean-François.
À tout le monde.
Alors, je vous propose une chose, Dominique, vous n'allez peut-être pas découvrir grand-chose, vous, dans l'émission, puisque vous avez lu le livre « L'exécution » donc de Jean-François Denis, mais encore une fois, merci, parce que tous les auditeurs de l'émission vont faire connaissance de cette affaire, et puis nous allons, avec Jean-François Denis, revoir ensemble toutes les hypothèses qui ont été abordées à l'époque, et peut-être nous approcher de la solution. Dans un petit instant, après une première pause, eh bien... nous commençons à vous raconter les circonstances de ce drame, donc encore une fois du 21 juillet 1946. Les victimes oubliées de Beaumier. Nous allons vous raconter avec mon invité Jean-François Denis ce qui s'est passé en cette fin du mois de juillet 1946, ce quadruple meurtre au cours duquel ont perdu la vie toute une famille de paysans, deux petits-enfants, 10 ans et 12 ans. L'un est le fils du couple, l'autre c'est un petit enfant de la DAS qui a 10 ans donc et qui a été placé dans cette famille d'accueil. On a été jusqu'à tuer le chien, donc ça a marqué les imaginations. Jean-François Denis, il faut dire à ceux qui nous écoutent que vous avez été longtemps journaliste dans un journal de la région, la Nouvelle République du Centre-Ouest. Et puis un jour, vous faites un hors-série, un numéro spécial consacré aux affaires criminelles du Berry, puisque c'est votre région. Et quelques temps après la publication de ce hors-série, vous recevez une lettre de lecteur. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette lettre ?
Oui, il s'agissait en fait d'un magazine régional dont je m'occupais, qui s'appelait Berry Magazine. On avait fait un numéro spécial sur les affaires criminelles en Berry. Et on avait égrené un certain nombre, une dizaine ou une quinzaine d'affaires différentes, avec les personnes qui travaillaient avec moi. Et puis il se trouve que le magazine paraît, et on reçoit un coup de fil d'un lecteur qui nous dit « Mais c'est bien votre Berry Magazine, super, mais l'affaire de Beaumier, vous n'avez jamais entendu parler de ça ?» Et c'était cet auditeur-là qui s'appelait Henri Labaye, qui, je pense qu'il est décédé maintenant, mais qui était journaliste à l'époque, qui avait vécu donc l'affaire comme journaliste. Évidemment, on avait un bon souvenir.
Oui, il était secrétaire de rédaction dans un journal
local.
Et après, il a fini sa carrière à l'AFP.
À l'AFP, voilà. Et puis, il était retiré dans le département, et ayant lu ce hors-série, s'aperçoit qu'on a oublié une affaire avec, excusez du peu, quand même 4 morts.
Ouais.
Et un mystère toujours aussi dense.
Et donc du coup, vous dites, bon ben, on va, voyons de quoi il s'agit. Donc vous rencontrez ce lecteur. Voilà. Et puis, alors vous, c'est vraiment intéressant de dire le fil sur lequel vous avez tiré, parce qu'on comprend que vous êtes impliqué à partir de là, pendant des années, dans cette histoire. Donc avec cet ancien journaliste, vous allez voir le maire, je crois, de l'époque, du village.
Il m'a donné déjà quelques pistes.
Ouais.
J'ai évidemment lu les journaux de l'époque. Et ça va peut-être expliquer pourquoi cette affaire a été si mal médiatisée, si vous voulez.
Oui.
C'est que non seulement il y a l'époque qui est 1946, bon, on n'est pas dans une époque très très médiatique évidemment, mais elle est toujours restée très régionale. À part, je crois, Kipolis et puis quelques médias qui au début ont fait leur une là-dessus.
Ouais.
Après, c'est très vite retombé. Et c'est d'ailleurs ce que le journaliste Henri Labaye m'avait dit. Il m'avait dit l'affaire de Beaumier. Bon, au début, on en a beaucoup parlé. Et puis très très vite, il n'y a plus rien eu.
Plus rien.
Voilà.
Ouais. Alors vous avez rencontré d'anciens enquêteurs policiers de l'affaire, notamment un ancien de la PJ d'Orléans, hein, parce qu'au début c'est la brigade mobile, je crois, de Limoges qui est venue enquêter. Il y a les gendarmes
aussi.
La PJ de Limoges. Il y a les gendarmes donc qui ont fait la part de travail qu'on a bien voulu leur laisser. Hein, si je vous ai bien lu.
Voilà.
Et puis alors des gens, des quelques personnes non décédées de l'époque. Et avec tout ça, bien sûr, il fallait que vous alliez sur les lieux. À quoi ça ressemble aujourd'hui, ce hameau de Beaumier
Le hameau de Beaumier, les Ajonbara, donc c'est à quelques kilomètres du village de Beaumier. C'est un petit peu à l'écart de la route. Ce sont 3 maisons isolées. Bon, maintenant, qui sont évidemment pratiquement de... Je crois qu'elle est la maison du crime est devenue une résidence secondaire.
Hein. Oui, vous avez rencontré le propriétaire, d'ailleurs.
Oui, après.
Qui a refait un œuf et tout. Oui.
Tout à fait, oui. Qui m'a dit, vous voyez, c'est là qu'étaient les corps.
Ouais.
Dans son salon.
Ouais. Mais un beau salon qui n'avait rien à voir avec l'état de la ferme à l'époque, parce qu'on est quand même, vous l'avez dit, à la suite de la guerre, ces paysans sont des paysans pauvres, il n'y a pas d'électricité, l'eau, on va la chercher
au puits
dans la cour, et la pièce où ça s'est passé, c'est une espèce de remise bizarre.
Les enquêteurs appelaient ça une cuisine débarras, c'est-à-dire que c'est là que la famille prenait ses repas. Et puis en même temps, on y trouvait tout un fatras d'ustensiles ménagers, une lessiveuse, enfin des choses comme ça.
Ouais.
On voit d'ailleurs sur les photos des scènes de crime. Hein, on retrouve un petit peu tout ce décor. Il y a du linge qui pend à un endroit.
Ouais.
Donc c'est quand même que des conditions de vie extrêmement précaires à l'époque.
Ouais.
Hein, 1946, Kléber Carteron est un journalier agricole.
Ouais.
qui va tous les jours travailler chez son patron et qui rentre donc tous les jours, le soir. Il s'y rend à pied, c'est tout juste s'ils ont un vélo. Enfin, vous voyez, ce sont des conditions de vie des gens très très modestes.
Voilà, sa femme, c'est l'Alphonsine, comme on dit.
Oui, voilà, l'Alphonsine, oui, c'est comme ça qu'on l'appelait.
Alors, les femmes à la maison, c'est une fermière, elle s'occupe des poules.
Qui élève, tout à fait, les poules, le jardin. Et puis deux gamins, comme vous disiez tout à l'heure, donc leur propre fils, et puis un enfant de l'assistance, on disait à l'époque, qui était placé chez eux. Beaucoup de familles pauvres prenaient un enfant de l'assistance.
Alors, Jean-François Denis, vous parliez des photos de l'époque, vous les avez consultées parce que vous avez eu une chance, c'est que, pour consulter les archives de la presse, pas de problème, mais quand on veut avoir le dossier d'une affaire judiciaire, c'est pas la même chose, et vous êtes adressé au procureur de la République de l'époque
de Châteauroux,
de
l'Indre.
Monsieur Lemel.
Laurent Lemel, qui a fait une belle carrière, après, qui est rentré au ministère,
vous lui avez envoyé une lettre, et puis il vous a répondu un jour.
Exactement.
Il lui dit, écoutez, passez me voir, j'ai retrouvé votre dossier.
Tout à fait.
Du coup, il l'a lu, d'ailleurs.
Alors, j'étais vraiment stupéfait, mais très, très heureux à la fois.
Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il vous montre des photos qui ont été prises sur les lieux du crime. Qu'est-ce qu'on découvre, alors, sur ces photos?
L'horreur. L'horreur, vraiment, c'est les photos qu'ont faites les gendarmes, ensuite la police, donc c'est les photos des corps prises sous différents angles, dispersés autour de dans la pièce, pratiquement en cercle, les mains liées derrière, les mains rattachées aux poignets, aux chevilles, et nouées derrière le dos.
Liées dans le dos et reliées aux chevilles. Voilà. Ce qui fait qu'ils ont les chevilles à l'équerre, en fait, c'est une position tout à fait terrible, quoi.
Voilà.
Et Alphonsine, ils sont tous morts d'une balle dans la nuque, Alphonsine, elle est baïonnée.
Baïonnée, oui. Elle a mordu son baillon, dit-on. Donc, elle a peut-être essayé de se défendre.
Se défendre. Et le chien, donc, dans son panier, qui était un chien réputé assez agressif. Voilà. Alors, ça, c'est ça, en fait, qui frappe tout le monde. Mais qui peut bien en vouloir? Parce que c'est des gens ordinaires, que vous l'avez dit,
une
famille comme les autres. Quel mobile. Alors, quand même, les gendarmes qui n'ont pas les yeux dans leur poche, c'est leur métier, ils notent quand même tout de suite qu'il y a un carreau cassé, Parce que les pièces ne communiquent pas entre elles.
Voilà, il y a un carreau cassé et la porte dans laquelle est commise le crime, est verrouillée. Les gendarmes doivent donc faire appel à un serrurier pour déverrouiller la porte et entrer
dans la
pièce du crime.
Et c'est là où ils voient qu'un carreau d'une fenêtre qui donne sur la cour a été brisé au niveau de l'espagnolette. Donc, en gros, on leur mâche même le travail un peu, quoi. On s'est introduit par là. Et alors, sur la table, il y a le dîner qui est prêt.
Il y a le dîner qui est entamé.
Entamé.
Alors, pour dire encore combien ces gens étaient pauvres et humbles, c'est quelques pommes de terre en vinaigrette, avec du pain. Et puis un petit pichet de vin.
Il faut dire qu'il y avait encore des cartes de rationnement. On est en 1946. 46, on trouve même les cartes de tabac.
Clébert-Carteron.
De Clébert-Carteron. Alors, ce qu'il faut dire aussi encore, avant d'aller plus loin, avant de commencer à parler vraiment de l'enquête, c'est les conditions dans lesquelles le drame a été découvert, parce que tous les policiers, tous les gendarmes savent que les premières heures après un événement criminel sont capitales. Et là, il va se passer presque 3 jours
avant la découverte du crime.
Ils ont été tués vraisemblablement le dimanche, et ça n'est que le jeudi qu'une voisine... alors, les voisins ne sont pas inquiétés pendant 3 jours?
Peut-être un petit peu, mais ils n'ont pas manifesté toujours. Ouais. En tout cas, la voisine, Madame Jugan, le jeudi s'est rendue sur la ferme des Carterons, et s'est aperçue que le pain que la boulangère déposait chaque jour était toujours glissé derrière le volet, que le journal que la famille voisine leur passait n'avait pas été ouvert, était toujours là.
Et elle
s'est dit, il y a vraiment quelque chose de bizarre.
Ouais. Puis pas de lumière, la veille au soir, elle avait commencé à... elle avait regardé de son jardin, pas de lumière, où est-ce qu'ils sont, quoi.
Tout à fait. Et puis, elle s'est approchée le matin, donc le jeudi, comme vous dites, 3 jours après, un jeudi, il faisait chaud, et qu'est-ce qui l'a frappé tout de suite? C'est une odeur pestilentielle qui s'échappait par le fameux carreau brisé.
Voilà.
Parce que la pièce, évidemment, était dans la pénombre. Ouais. Et donc, là, immédiatement,
regarder, elle va deviner, elle va voir des parties du corps des victimes, quoi. Et donc, évidemment, elle va appeler son mari qui était au champ.
Son mari qui était au champ. Et puis, lequel mari saute sur son vélo et va chercher les gendarmes d'Ambro.
Voilà. Et les gendarmes arrivent trois quarts d'heure après. Alors, il fallait raconter tout ça pour comprendre de quoi nous parlons. Ça ressemble quand même furieusement à une exécution, 4 balles dans la nuque. En même temps, il y a le chien, et puis en même temps, il y a ces victimes qui ont les mains liées derrière le dos. Drôle d'histoire. Quel mobile. Ça va être la tâche de l'enquête, et l'enquête ne va pas être facile. On vous raconte ça dans un petit instant.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Alors évidemment, pas d'archives sonores sur cette affaire. On parle de victimes oubliées, de drames oubliés, on a bien raison. Et c'est grâce à Jean-François Denis, donc journaliste, qui est mon invité, qui a publié les résultats d'une enquête qui a duré plus de 3 ans, l'exécution. Alors, à l'époque, aux éditions Les Mains Nues, mais il faut dire que ce livre, Jean-François Denis, est épuisé, j'allais dire nationalement, on le trouve encore dans la région du Berry, mais pour ceux qui voudraient aller plus loin après l'émission, je peux vous dire, et d'ailleurs on l'a mis en lien sur RTL.fr, où on peut se procurer ce livre, sur avoir tous les renseignements sur www.jfdenis-écrivain.net, jfdenis-écrivain.net. Si vous n'avez pas pu noter, ben vous regardez ça sur RTL.fr. Alors, maintenant, on va encore donner quelques éléments de complément sur la scène de crime. D'abord, on trouve des douilles. On trouve 6 douilles, hein, je crois.
6 douilles, oui.
Ouais, toutes les douilles n'ont pas été
percutées. 6 douilles percutées et 2 non percutées.
Et 2 non percutées, bon. Alors ça va être un indice, c'est quasiment le seul indice, parce qu'il n'y a pas de témoin, personne n'a rien entendu. On se dit, voilà un indice capital.
Voilà.
On va voir ce que vont en faire les premiers enquêteurs de la PJ de Limoges. Et puis, évidemment, on s'interroge pour savoir, puisqu'il y a le carreau cassé, alors il y a eu un cambriolage, la maison, ou une partie de la maison a été fouillée, ça c'est vrai.
Oui, ça a été fouillé. Certaines chambres, l'armoire a été retournée, enfin de l'alcool a été versé sur le sol, mais on a du mal de trouver ce qui a été volé. Voilà. Parce qu'il y a d'abord, il n'y avait pas grand-chose à voler.
Oui, voilà, mais je crois qu'ils sont repartis avec, je ne sais pas, 12 couteaux, 12 fourchettes.
Oui, on s'est aperçu, quand on a fait un peu le bilan, qu'il y avait vraiment quelques couverts et puis 2-3 bricoles qui étaient disparus. Quoi. Ouais.
Alors, les douilles, c'est très important, hein, parce que, évidemment, nous, qui avons lu le livre et qu'on a anticipé, parce qu'après des mois, on va s'apercevoir, c'est incroyable d'ailleurs, que les limiers de la PJ de Limoges n'ont pas essayé de rechercher par quelle arme avaient été tirées les douilles qu'on a retrouvées. C'est pour ça qu'on sait maintenant que c'était une mitraillette Sten, hein, de marque anglaise, celle que on parachutait pendant la résistance pour armer les
maquis.
Voilà, les maquis. Donc ça, ben voilà, on va le découvrir plus tard. Alors maintenant, on passe aux hypothèses. Et les premières hypothèses, crime de rôdeur,
oui.
Mmh. Et puis après, on se dit, finalement, ça tient pas tellement, puis on a vu personne dans le coin.
Oui, il y a une petite enquête de voisinage qui a été faite par les gendarmes et qui a rien donné, quoi. Personne n'a circulé dans la nuit du dimanche, là. Ouais. On n'a rien vu de particulier.
Alors peut-être la vengeance pour une affaire personnelle. Et là, les enquêteurs vont trouver, j'allais dire, un suspect idéal ou un coupable idéal, même.
Voilà. Alors, sur cette hypothèse de la vengeance, la voisine met, disons, les gendarmes dès le matin, et les gendarmes et le maire qui sont sur place les premiers, sur la piste d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui avait séjourné aux agents Barra, qui avait donné un coup de main à la ferme, et puis qui était un petit peu fort en gueule, qui était un petit peu m'as-tu vu, et puis qui avait eu
Henri Chatman,
ouais. Et qui avait eu, dit-elle, quelques mots avec Kléber Carteron. Bon, il n'était plus là pour le dire, bien sûr, mais donc on pense que peut-être il aurait pu revenir et puis s'en prendre à la famille, mais vous vous rendez compte, pour quelques mots, abattre une famille de 4 personnes. Bon, mais disons que les enquêteurs...
Comme ils n'ont rien d'autre, de toute façon,
n'ayant rien d'autre,
ils ont intérêt à creuser cette piste.
Bon, on va creuser ça, et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la police de Limoges qui prend le relais des gendarmes, qui arrive dans l'après-midi même, du jeudi, et qui commence donc à faire à peu près les mêmes relevés que les gendarmes, et qui s'intéresse à cette piste. Donc on met tout le monde sur les traces de Henri Chatman, essayer de le retrouver, où est-il, et pendant, ça paraît même dans les journaux, pendant quelques jours, on peut même dire quelques semaines, Henri Chatman, c'est le suspect numéro 1, il reste plus qu'à lui mettre la main au collet, et on va avoir le criminel.
Alors, on va l'attraper, on va finir par l'attraper.
Ah non, on va pas l'attraper, non, puisqu'il est...
Alors, c'est pour ça que je vous pose la question. On va le localiser, on va dire, qu'il a un alibi en béton armé.
Il a un alibi en béton, effectivement, puisqu'il est légionnaire. Et on s'aperçoit, bon, après une enquête auprès des gens de sa famille, qui s'était engagé dans la Légion, on réussit à savoir où il est à Sidi Bel Abbès, et le, j'ose plus dire, le colonel de son régiment fait parvenir un télégramme à la PJ, disant, voilà,
le jour du crime,
Henri Chatman est à la Légion depuis déjà 8 ou 9 mois. Voilà. Donc il est forcément hors de cause.
Voilà. Alors ça va peiner un peu l'un des commissaires qui mène l'enquête dont vous parlez un peu dans le livre, parce qu'il va s'illustrer, si je puis dire, également dans une autre affaire beaucoup plus célèbre, qui est l'affaire Missetienneau, on va pas revenir là-dessus, mais l'histoire de deux gardes-chasse, enfin de deux paysans accusés d'avoir tué un garde-chasse dans le château des Sucres...
Le Boudy,
voilà, merci. Et ils avaient avoué dans un premier temps, à la suite d'un interrogatoire plus que musclé, justement mené par ce fameux commissaire. Ouais. Enfin, ils les avaient interrogés à la mairie, les gens entendaient hurler les suspects, et ça avait bouleversé toute la région. Alors cet homme-là, il est plein de certitudes, vous dites.
Oui, complètement, oui. Il est parti sur l'idée, bon, Chatman, pour revenir aux balles, aux douilles qui ont été trouvées, il s'est contenté de les relever, bien sûr, et de les transmettre à un armurier de Châteauroux, pour lui demander quelle arme avait tiré... si c'était la même arme qui avait percuté
toutes les
six douilles.
Ouais.
Percuté, plus bon, les deux autres. Ouais. Voilà. Et évidemment, l'armurier, sa réponse revient, il dit « Oui, c'est la même arme ». Mais le problème,
il dit pas quelle arme, bien sûr. Alors ça, on le saura beaucoup.
Et d'ailleurs, le commissaire Georges Darrow, puisque c'est son nom, pendant tout le délai, dès ses premiers rapports, parle tout de suite d'un revolver.
Un revolver. Alors c'est là où les certitudes sont graves dans ces cas-là.
Voilà. Quoi.
Et c'est finalement un personnage ô combien célèbre, père de la police scientifique, Edmond Locard, qui a créé le premier laboratoire de police scientifique à Lyon, qui va donner la solution. On va lui faire parvenir les douilles percutées, et il va dire c'était une mitraillette Sten. Et alors on se dit mais une mitraillette ça envoie des rafales. Ben non, ça peut aussi être dans une position coup par coup.
Voilà.
Et c'est comme
mais
ça.
Mais il faudra cependant, Jacques, attendre 2 ans.
Oui, bien sûr. Oui, là, j'anticipe.
Voilà, vous anticipez.
J'anticipe.
Pour arriver à la Sten. Hein.
Voilà. Alors, on va continuer, non pas à anticiper, mais à en apprendre un petit peu plus sur les débuts de l'enquête. Donc, Chatman, mauvaise pioche. Alors, à ce moment-là, qui peut en vouloir à cette famille de paysans? Et puis, une autre question, est-ce que les assassins connaissaient leurs victimes ou est-ce que c'est vraiment un crime de hasard? Les enquêteurs vont tenter de répondre à ces questions, et surtout, il va y avoir un élément supplémentaire qui va arriver dans l'enquête. On va apprendre que Kléber Carteron avait peur de quelque chose, il en a parlé à des gens qui en ont parlé aux enquêteurs, et puis on va faire tout près des lieux, finalement quelques centaines de mètres, des découvertes assez étranges dans les environs. On vous en parle et on vous dit tout dans quelques secondes. Enquête sur un mystérieux assassinat d'une famille de paysans à Baumier, en Indre-et-Loire, dans le Berry. Pardonnez-moi, je révise ma géographie aujourd'hui. C'est Jean-François Denis qui m'a corrigé, mais c'est vrai, il a passé sa vie là-bas, dans la presse. Alors bon, on parle de ce crime parce que, une série de hasards qu'on a rappelé tout à l'heure, Jean-François Denis a été amené à enquêter surtout sur cette affaire, à rencontrer les témoins de l'époque, les policiers, à consulter à la fois les archives de la presse, mais aussi le dossier judiciaire pour s'apercevoir que l'enquête était pleine de trous, qu'on pouvait quand même se poser des questions sur la compétence de certains des enquêteurs. Alors après, la question sera, mais ça je vous la reposerai tout à l'heure, est-ce que c'est de l'incompétence naturelle ou est-ce qu'on a fortement conseillé à un moment de cette enquête aux policiers de laisser passer, enfin voilà, en gros, est-ce qu'on a étouffé l'affaire? Alors on n'en est pas là. Découverte importante quand même des enquêteurs, des témoins vont voir les policiers pour dire mais Kléber Carteron avait peur, il m'en avait parlé, qu'est-ce qu'il avait dit?
Voilà, ses camarades de travail avaient dit à la police que Kléber avait l'impression d'être suivi. certains soirs. Il avait senti une présence.
Des mois avant, hein, même l'année d'avant.
Oui, c'était pas dans les quelques jours qui ont précédé le crime. C'était dans l'hiver, hein, quand il rentrait de son travail, qui était situé à environ 2,5 km. Il disait, j'ai l'impression d'être suivi. Voilà. Bon, ça n'allait pas au-delà. Je crois qu'aussi au coiffeur du village, il avait dû dire pareil, les mêmes choses. Il témoignait d'une certaine inquiétude. Voilà. Voilà, donc ça c'est le.
Alors
c'est...
ça, bon, on se dit, mais alors qui, pourquoi on revient à l'hypothèse là de la vengeance ou du choix de la victime. Il y a une autre hypothèse, j'y pense comme ça, mais ça on verra plus tard. Mais il y a eu un homonyme aussi. Enfin bon, on s'est dit peut-être il y a erreur sur la personne. Alors les découvertes, par contre. Pratiques là vont renforcer l'hypothèse du crime fait soit par des vagabonds, soit par des prisonniers allemands en cavale, puisque rappelons-le, on est en 46, c'est qu'on va trouver des éléments tout près, à quelques centaines de mètres, en bordure d'une forêt.
Voilà.
Puisque alors qu'est-ce qu'on va trouver là?
Le village des agents Barra est situé près d'une grande forêt domaniale, et ce sont les gendarmes qui vont faire ces découvertes, hein, ou tout au moins des gens qui vont rapporter ces découvertes aux gendarmes. Donc on découvre d'abord une musette dans une haie.
Ouais.
Hein, c'est un gamin qui découvre ça. Dedans, il y a un cahier d'écolier.
Ouais. Mais cette musette, elle est assez particulière. Hein. Des témoins pour le... Non ? Ben dites-moi pourquoi vous me regardez comme ça. Elle n'est pas particulière, la musette ?
Je crois que c'est une musette qui appartient à Carteron.
Ben voilà, oui. Mais donc, les enquêteurs vont pouvoir avoir l'assurance qu'elle appartenait à Carteron. Parce qu'elle avait été rafistolée.
Oui, elle a été rafistolée.
Avec
oui,
de la ficelle pour lier les gerbes de blé.
Je crois que c'est son patron qui a dû reconnaître et identifier la musette pour être celle de Carteron. Voilà. Dedans, il y avait un cahier d'écolier qui appartenait. Bon, on n'a pas su à qui, puisque les investigations n'ont pas été faites.
Ouais.
Et puis, peu après cette musette, il y a eu la découverte faite par un bûcheron. D'une cachette en lisière de forêt.
Alors ça c'est important, c'est un abri de fortune fait de branchages et même avec des branchages qui auraient pu être une sorte de matelas quoi. Enfin,
voilà, posé au sol, des branchages posés au sol pour isoler et puis également des branches qui menaient de la lisière vers la cachette, des branches cassées comme pour faire un
comme le petit poussé, mais là c'est pas des cailloux quoi, on casse des branches pour retrouver
pour matérialiser
son chemin.
Voilà.
D'accord. Ouais. Alors là ça renforce, on se dit peut-être il y a quelqu'un qui se planque là, il est à 400 mètres de l'affaire.
Et en ligne droite en plus.
Et en ligne
quand on
droite,
regarde bien,
absolument.
Il suffit de traverser après des champs ou des prés et on arrive directement aux agents Barra sans passer par un chemin, ni par la route, ni par quoi que ce soit, sans rencontrer âme qui vive.
Ouais. Bon, alors cela dit, on cite tout ça pour montrer que, en fait, il y a eu effectivement une enquête, on s'est posé plein de questions, mais on n'a trouvé aucune réponse. Et puis quand même, l'histoire de la mitraillette était importante, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a aussi les rumeurs, et puis il y a ce que les gens pensent, et ce que les gens disent, et ça revient aux oreilles des enquêteurs. Et ce que les gens pensent, et ce que les gens disent, c'est que on est en 46, la guerre n'est pas très loin. Pendant 44-45, il y a eu beaucoup de règlements de comptes nés de conflits personnels pendant la guerre, les collaborateurs, et puis il y avait pas mal de maquis dans la région.
Il y avait quelques maquis dans la forêt, oui.
Voilà. Et là, on se dit, mais alors, et puis la mitraillette Sten, justement, elle était parachutée par les forces alliées
pour armer
les maquis. Donc on se dit, mais alors, est-ce que cette mitraillette n'est pas la signature d'un acte d'ancien résistant?
Mais pour en arriver à la mitraillette, il s'écoule encore du temps.
Oui, ça je sais.
Et effectivement, c'est ce qui va amener sur la piste politique. Et ce qui va peut-être mettre les enquêteurs sur la piste politique, donc piste politique, ça veut dire règlement de compte par des éléments issus de la résistance, c'est comme ça qu'on l'entend, c'est la deuxième partie de l'enquête qui est confiée cette fois-ci à la police judiciaire d'Orléans.
Voilà, alors parce que on l'a pas encore dit, l'affaire est très complexe, hein, mais c'est que en 48, en fait, les faits datent de 46, en 48, il y a un non-lieu. Bon, et puis en 52, il va y avoir un rebondissement important justement dont on va parler maintenant, et il y a une nouvelle instruction qui va être ouverte et qui va être close définitivement quelques années plus tard. Alors, l'hypothèse donc de la résistance, mais quel résistant, quel maquisard pouvait en vouloir à Clébert Carteron et pourquoi avait-il vu quelque chose qu'il ne devait pas voir? Eh bien, on va essayer de répondre à la question.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Et on revient à cette enquête pleine de rebondissements qui n'a jamais abouti sur le quadruple meurtre de Bonnier en Berry. L'histoire nous est racontée par Jean-François Denis, qui a mené une enquête de plus de 3 ans en essayant de retrouver en tirant tous les fils qui restaient encore à tirer, quoi. Après cela, beaucoup de gens sont morts, bien sûr, mais vous avez retrouvé un policier, d'ailleurs, dont on va reparler maintenant, parce que je posais la question il y a un instant, est-ce que Kléber Carteron aurait vu quelque chose qu'il ne devait pas voir. Et c'est en tentant de répondre à cette question qu'il y a peut-être là, on est peut-être sur le début d'une solution.
C'est ce que dit en tout cas la rumeur, et encore aujourd'hui on peut dire. C'est-à-dire que Carteron aurait été, la famille aurait été abattue parce que Kléber Carteron aurait pu être le témoin, on va pas dire l'acteur, mais au moins le témoin d'un parachutage après lequel on aurait partagé les réceptionnaires seraient partagés, si vous voulez, de l'argent.
Voilà, parce que les forces alliées envoyaient des armes, bien sûr, par parachute,
des radios,
pour armer les maquis, des radios, enfin des
de l'argent
et de l'argent, bien
voilà.
sûr. Et quelquefois l'argent n'est pas arrivé à sa destination, faut bien le dire.
On n'en est pas certain parce que j'ai évidemment essayé de savoir quel parachutage il y avait eu lieu. Il y a eu quelques parachutages, il n'y en a pas eu énormément, mais de l'argent a priori il n'y en a jamais eu.
Et puis souvent dans ces parachutages, quand il y avait des armes, il y avait des stènes. Alors ça c'est vraiment très important parce que vous avez il faut nous parler maintenant de ce policier de la PJ d'Orléans qui vous a enfin. Dont on a arrêté l'enquête, on peut le dire.
Oui, je pense. Ouais.
Qui vous l'a dit, quoi.
Donc, en 48, l'enquête est reprise par la PJ d'Orléans. Le jeune inspecteur René Roland, 29 ans, entre en scène. Et il est mis sur la piste politique, on va dire. Maquisard, on va dire, ou ancien maquisard. Et il s'attache donc à essayer de faire la lumière là-dessus.
Alors, on lui parle d'un certain capitaine Jacques,
oui.
Connu parce qu'il y avait beaucoup de pseudos comme ça dans la Résistance,
oui.
qui n'a pas très bonne réputation.
Hein, pas...
Et il va retrouver quelqu'un qui était très proche de ce capitaine Jacques.
Voilà, alors qu'il va retrouver, on pourrait dire, son bras droit, oui. pour ne pas dire son lieutenant, qui est un agriculteur demeurant à Ségri.
Oui, c'est-à-dire à quelques...
Oui, c'est dans les environs, hein, tout autour de la forêt, tout ça, c'est dans un mouchoir de poche, si vous voulez. Et cet homme-là s'appelle Monsieur Gourier, il est assez bavard. On découvre, bon, je précise, chez le capitaine Jacques, tout un matériel hétéroclite de tas de choses, des caleçons, des rasoirs, des choses toutes neuves, hein, qui sans doute proviennent de parachutage. Et puis, plus intéressant, on découvre chez cet agriculteur, sous une meule de paille ou de foin, une mitraillette Sten. Ce sont les gendarmes, encore une fois, qui font cette découverte. Donc, automatiquement, on se dit, tiens, une Sten, c'est très intéressant.
On va la faire étudier, balistiquement.
On l'a fait étudier, là, c'est le professeur Locard intervient, et il dit qu'affirmativement, c'est une Sten qui a tiré les projectiles
D'accord.
qui ont tué les Carterons.
Il dit pas, c'est cette Sten.
Ah non, puisqu'on ne lui remet pas.
On lui remet pas
la. On ne lui remet pas la Sten.
Lui, Locard, il a dit ça en étudiant les balles. C'est une Sten. On trouve une Sten, mais on va pas plus loin.
C'est une Sten, et c'est la même Sten qui a percuté. On va pas plus loin.
C'est complètement fou, quoi.
Ouais. C'est hallucinant.
Ouais. Alors, il y a plein de manques, hein, comme ça. La musette, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la fameuse musette. On sait qu'elle appartenait à Carteron. On sait, le dernier témoin qui a vu Carteron vivant, vous le racontez dans le livre, c'est le dimanche soir, quand il est rentré de la pêche avec les deux enfants. Il s'est arrêté dans une ferme pour acheter du lait.
Ouais.
On n'est pas allé interroger la laitière, la fermière, pour savoir s'il avait sa musette. Donc, alors, ces trous, sont-ils volontaires ou pas? Parce que Roland, il vous a laissé entendre quand même qu'un jour, il a été. Son chef a été convoqué d'abord, hein, je crois, par le juge d'instruction.
Alors,
et puis après, on lui a dit, mon vieux...
René Roland, bon, j'ai eu la chance, il avait 78 ans quand j'ai fait cette enquête, et j'ai eu la chance de le rencontrer. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, il m'a expliqué tout ça. Malheureusement, il n'était pas... il m'a dit, j'étais jeune, c'était à l'époque, je ne peux pas être affirmatif, mais je ne pense pas avoir reçu d'ordre. Mais le doute plane. Il dit qu'après, il a changé de service. Je pense qu'il est profondément...
Il a appris que son patron a été muté aussi.
Tout à fait.
Hein.
Ouais, bon, son patron a été muté à Paris, mis au placard.
Voilà. Ouais. Hein, c'est pas une promotion, d'habitude, c'est des promotions.
C'est pas.
Mais bon, alors, il faut dire que l'histoire est vraiment très, très complexe et passionnante. Hein. Là, on survole un peu peu les faits, surtout étant donné l'heure. Il faut dire que le rebondissement de 52, c'est parce qu'il y a des témoins nouveaux, on va dire, qui s'étaient manifestés. Mais là, il faut avoir la plus grande prudence parce que il y en avait un, c'était un vrai dérangé mental. L'autre, on pouvait se poser des questions également. C'est ce qui fait, en tout cas, qu'il y a eu un retour de l'enquête et un non-lieu définitif en 1957. Alors, il nous reste maintenant deux minutes, Jean-François Denis. Vous dites dans le livre, moi j'ai une certitude absolue et des certitudes relatives en sortant de cette enquête. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous pensez, quel est le scénario à votre avis qui expliquerait ce mystère ?
Le scénario, c'est difficile à dire, mais la certitude absolue, c'est que vraiment tout n'a pas été mis en œuvre pour découvrir les assassins. On a parlé que de ça. Finalement, on a parlé que toutes les lacunes de l'enquête. Et évidemment, si on avait un petit peu approfondi, notamment la question de la Stène, il est certain qu'on aurait certainement approché de la
du résultat. Pourquoi ne pas faire passer la justice ? Parce que il faut revenir à la
circonstances
de 46, c'est-à-dire que
le
Parti communiste extrêmement puissant en France, beaucoup de communistes chez les maquisards, et ça aurait fait mauvais effet, on va dire.
Aller au bout de cette piste politique, trouver les coupables éventuellement, ça aurait été mettre en cause les maquisards qui, à l'époque, ne globalisons pas, qui à l'époque, évidemment, étaient quand même regardés comme des héros. Et légitimement, bien sûr, pour la plupart d'entre eux.
Et vos certitudes relatives, d'un mot comme ça,
certitudes relatives, les tueurs étaient certainement plusieurs, ils étaient aguerris, c'était pas des amateurs. Ils connaissaient sans doute leurs victimes, ce qui explique qu'ils ont sûrement abattu le chien.
Qui n'aurait pas aboyé.
Et puis, ils ont sans doute campé pas loin de la maison des Carterons,
dans la
fameuse cache, où ils sont venus en ligne droite pour commettre leur forfait.
Je vous remercie beaucoup, Jean-François Denis. Affaire passionnante. Prie. Si vous voulez aller plus loin, L'Exécution, le livre qu'a écrit Jean-François Denis, qu'on peut se procurer sur Internet, www.jfdenis-écrivain.net. L'émission est terminée. Et dans un petit instant, nous allons retrouver, bien sûr, Flavie Flamand.
En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.